Alors, il y a ascension individuelle et collective. Alors, une question de Thierry. Si vous pouvez expliciter la différence entre l'ascension individuelle et celle collective et les liens entre les deux. Bah, c'est simple. Dans ton corps, si tu as une cellule cancéreuse, bah, c'est une ascension négative, on va dire, hein? Donc, ce qu'elle va essayer de faire, c'est qu'elle va essayer de, par son rayonnement, bah, de communiquer un petit peu aux autres. Donc, si elle fait une ascension dite collective, c'est que tu es mort. En clair, je prends juste une idée comme ça, mais l'ascension collective est d'abord une ascension individuelle. Donc, comme chaque humain est une cellule de l'humanité, du corps de l'humanité, eh bien chaque cellule qui va ascensionner va donc aider le corps de l'humanité à ascensionner. Donc, quel rapport il y a entre les deux? Bah, c'est direct, hein. Il ne pourra pas y avoir d'ascension collective parce que ce ne sont que des ascensions individuelles. À chaque cellule, il sera demandé d'ascensionner. Celles qui ascensionneront pas, bah, c'est pas difficile. Elles vont être trayées de la carte. Parce que chaque jour, dans ton corps, il y a des millions de cellules qui meurent. Et puis, bah, normalement, il devrait y en avoir autant qui naissent. Le seul truc, c'est que comme on roule plutôt au frein à main, bah, il y en a moins qui naissent et donc qui fait qu'on vieillit. Hein, donc quand on dit une cellule naît, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ça ne marche pas comme ça. Hein, c'est-à-dire qu'une cellule, ça se divise. Donc soit une cellule se divise, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, bah, de 1, on fait 2, et donc c'est super, puis il y a celle qui meurt. Parce que celle qui meurt, bah, elle se divise pour elle. Donc elle meurt. Et donc elle sera compensée qu'à la seule condition qu'il y en a une qui se divise. Or, bah, actuellement, puisque nous sommes dans le processus de la vieillesse, ça veut dire que, il y en a plus qui meurent que celles qui se divisent. Et pourquoi bah, elles meurent? Parce qu'on les a tellement intoxiquées que bah, quelque part, il y en a de moins en moins qui se sentent aptes, comme dirait l'autre, à se couper en deux. Donc bah, voilà, il y a plus de morts. Donc on vieillit. Donc l'ascension collective ne sera qu'une ascension d'abord individuelle. Fusion entre notre conscience égotique et notre conscience supérieure. Alors, au moment de la fusion entre notre conscience égotique et notre conscience supérieure, une joie immense est ressentie, c'est comme un orgasme. Nous connaissons cette expérience corporellement. Vous pouvez expliquer ce qui se passe de votre point de vue dans cette expérience d'orgasme, autant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Alors là, on a affaire, donc c'est une question de Thierry, on a affaire à un problème de, je dirais, vocabulaire. Alors, il parle de conscience égotique et de conscience supérieure. Bon, tout ça, c'est un vocabulaire que j'utilise absolument pas parce que malheureusement, emprunt de plein de trucs qui ne sont pas terribles pour moi. Donc, on va dire que simplement, quand tu associes ton masculin à ton féminin, c'est sûr que tu te sens bien. Et donc, un orgasme, eh ben, c'est tout simplement quand le masculin et le féminin jouent parfaitement ensemble. Et sont en phase. Donc voilà, donc sur le plan physique ou le plan spirituel, ben pour moi c'est la même chose parce que en fait quand il y en a un qui est totalement en phase, ça veut dire que les autres vont en ressentir tous les effets. Si tu as un contact, on va dire, avec ton soi supérieur qui peut être furtif, ben, tu vas voir que tous les autres corps, ils vont le sentir. Quand un aimant entre guillemets, retrouve son équilibre, l'ensemble de tous les éléments qu'ils composent retrouvent leur équilibre. Alors bien sûr, c'est temporaire, hein, malheureusement, mais l'objectif, c'est de le rendre permanent. Donc c'est pour ça qu'on a cette envie d'ascensionner, de retour vers la source, parce on en a marre, d'une certaine manière, d'être dans un déséquilibre, je dirais, omniprésent, dans le sens masculin-féminin. Je ne parle pas du mouvement, il y aura toujours mouvement. Un mouvement est toujours un déséquilibre, mais c'est un déséquilibre de mouvement. Hein. Par contre, un déséquilibre masculin-féminin, ce n'est pas agréable. Donc, à chaque fois que ça se fait, qu'il y a du 50-50 et que ça bosse et que c'est en phase, alors là, c'est sûr, c'est nirvanaise, c'est orgasmique. Toujours une question de Thierry. Nous sommes malheureusement ou heureusement pas tous dans le même stade d'évolution. L'humanité va-t-elle être scindée? Si oui, de quelle façon? Sinon, que va-t-il se passer? Bah, l'humanité va-t-elle être scindée? Oui, elle va l'être. Mais pas du style camp de concentration et les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, pas du tout. Ça sera entre les vivants et les morts. C'est-à-dire que tout simplement, toute personne qui ne suivra pas la musique, qui ne pourra pas tenir la vibration, va nécessairement être sur la voie de l'extinction. Alors la voie de l'extinction, ben, vous avez l'extinction dite naturelle, c'est-à-dire que eh ben, si l'espérance de vie de quelqu'un, on va dire, est de 80 ans, eh ben, on attendra suffisamment longtemps pour qu'elle meure. Dans la réalité, comme le thermostat est à fond, hein, je vous rappelle, on est en graduation 12-12-12, ce qui veut dire que là, ça ne va pas traîner, quoi. Ça veut dire que toute personne qui ne veut absolument rien savoir, plus le temps va passer et plus elle va cuire vite. Et donc, c'est pour ça qu'il y a, depuis quelques temps, une mortalité de plus en plus grande dans des tas de maladies qu'on a plus ou moins résumé ça à sida. On dit, ouais, c'est le sida. Mais tout oubli qui veut pas mentir, c'est très bien que derrière cette dénomination de sida, en fait, on a planqué toutes les maladies inimaginables qu'on ne sait pas où mettre. Donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas de vaccin contre le sida, pour la simple et bonne raison, c'est que au lieu de croire que c'est une maladie, en fait c'est une somme, c'est la somme de milliers de maladies différentes, et qu'on ne pourra pas trouver un médicament pour chaque. De toute façon, même si on trouve un médicament, ce n'est pas un produit chimique qui changera l'état d'être d'un individu. En clair, c'est l'individu qui se sélectionne et qui va utiliser son moteur de la co-création, on va dire, contre lui. Hein, je donne un exemple simple. Du temps de l'Inquisition, on a eu des grandes épidémies de peste noire et de tout ça, etc. Dites-vous bien que tout ça, c'est simplement co-créé par la population. C'est-à-dire que les individus qui étaient tellement dans la noirceur et qui vivaient et qui croyaient cette noirceur ont fabriqué des formes conscience, puisqu'ils ont utilisé leur moteur de la co-création, et comme c'était, on va dire, un très grand nombre de gens et que ça a duré suffisamment longtemps, eh bien cette forme de conscience de vie, entre guillemets, est apparue et a laminé, éliminé, on va dire, tous les gens qui avaient malheureusement cet état d'esprit, parce qu'il rentrait en résonance avec. Donc n'ont pu être sauvés, c'est-à-dire ceux qui sont restés en vie, n'ont été que ceux qui avaient une forme conscience suffisamment différente pour ne pas être affectés par cette vibration. Donc quelqu'un qui dit, ah ouais, alors la grippe, alors attention, hein, il y a la grippe aviaire, il y a la grippe espagnole, il y a tout ça, alors il faut que je me vaccine. Hein. Ben, c'est simple, hein. Le fait qu'ils pensent à la grippe, eh ben, ils vont choper la grippe. Alors bien sûr, il peut prendre un vaccin, mais on sait qu'aujourd'hui, que le vaccin, il est pire que la grippe elle-même. Hein? Donc, concrètement parlant, eh bien, on peut dire que Big Pharma gagne sa vie en aidant les gens à mourir encore plus vite. Je sais que ce que je dis, ça peut chagriner beaucoup de gens, mais c'est comme ça. Parce que si quelqu'un dit « je vais me vacciner », eh bien, c'est que tout simplement, il a peur. Et donc, c'est la peur qui fera qu'il chopera exactement ce qu'il redoute. Donc, actuellement, dans les infos, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle le Gardasil qui a fait des milliers de victimes. Hein, et il y a un mec, c'est un père, il dit « Ah ouais, ma fille, je l'ai fait vacciner, elle est morte. » Ben oui, mais c'est lui qui a imposé la vaccination à sa fille. Donc, il a imposé sa peur à sa fille. Résultat, sa fille est morte. Alors maintenant, ben, il peut hurler. Donc, je veux dire, chacun prend ses responsabilités et c'est à chacun d'assumer le résultat. Donc, en imposant des choses à vos enfants, par exemple, hein, comme la vaccination, eh bien, c'est que vous prenez sur votre dos le résultat. Bien, après, il ne faut pas venir se plaindre. D'accord ? Donc, effectivement, l'humanité va être scindée. Il y a ceux qui, on va dire, suivront la musique, puis il y a ceux qui ne vont pas suivre la musique. Et ce n'est pas quelqu'un qui va juger, dire « Ah, celui-là, inapte, faut le flinguer ». Non, il n'y a personne qui va juger, ça se fera tout à fait naturellement. C'est-à-dire que la personne, par sa propre vibration, va s'autodétruire ou pas. À une vitesse plus ou moins rapide, ça dépendra de sa capacité à lâcher prise. Donc ça a été dit de toutes les canalisations depuis des années et des années. Ceux qui ne lâcheront pas prise, ben, ils resteront au fond de la casserole, puis c'est tout. Hein. En plein respect du libre arbitre. Ah, pourquoi Dieu n'intervient pas et tout ? Ben, Dieu n'existe pas, donc il n'interviendra pas. Et même si on disait que c'est l'un, ben l'un, il respecte totalement. Et n'interviendra pas. Sinon, pourquoi nos frères Iti, enfin les bons, ils ne sont pas venus nous sauver depuis longtemps ? C'est parce que nous sommes en pleine expérimentation et nous sommes d'accord. Il y a auto-élimination. Donc, Oui, l'humanité sera scindée. Il y aura ceux qui seront dans les cimetières et puis ceux qui ne seront pas dans les cimetières. Je sais que c'est pas gentil ce que je dis, mais que vous soyez d'accord ou pas, de toute façon, c'est ce qui se passe. Alors, une question de Fleur de Soleil. Je lis qu'il faut s'attendre extérieurement au choc de l'humanité, une montée de violence chez les hommes 3D et un moment de survie qu'il vaut mieux préparer. Et puis, le passage à la 4D de la Terre se fera essentiellement intérieurement et pas extérieurement. Pourrais-tu réexpliquer cela? C'est quoi le choc de l'humanité? Alors ça vient pas de chez moi, ça. Hein. Ça vient de canalisation de autre dimension, du choc de l'humanité. C'est sûr que, évidemment, que le passage en 4D, il va y avoir un choc au niveau du corps de l'humanité, c'est-à-dire que ce sont de nouvelles vibrations. Et comme dirait l'autre, qui dit nouvelle vibration, ça va secouer. Alors, quelle est la réaction d'abord d'un corps qui se fait secouer? C'est la réaction de survie. Qui dit réaction de survie va dire réaction de panique, va dire réaction de violence, va dire réaction de pillage, va dire réaction aussi, puisque ça va s'arrêter, entre guillemets, d'une certaine manière, ça veut dire qu'il va y avoir des manques. Et donc, s'il y a des manques, il va y avoir des pillards. Quelque part, l'homme de 3D, c'est-à-dire le corps de l'humanité version 3D, ils vont sentir qu'il vient de se passer quelque chose. Donc c'est comme si un individu se prenait quasiment un électrochoc, quoi. Hein? Quelque part, c'est sûr qu'il va pas rester allongé sur le lit peinard en se disant putain que c'était bon, est-ce que je pouvais m'en remettre un, quoi? Il va vouloir dégager, dire touchez-moi pas avec vos conneries, hein? Vous savez, quand quelqu'un un petit problème cardiaque, on lui balance les trucs, un petit coup d'électrochoc, je vais te dire, si t'es réveillé, puis que l'autre il a envie de réessayer, tu vas te dire, attends, dada, tu lui balanceras un coup de savate ou un coup de poing, mais tu feras pas qu'il te touche, hein, parce que t'auras pas aimé, quoi. Effectivement, il va falloir s'attendre, et ça fait partie de la logique. C'est normal, c'est une réaction absolument normale, simplement, il faut pas jouer à l'autruche. C'est-à-dire de croire que non, ça va être nirvanesque, les gens ils vont se relever et puis il ne se passera rien. Non, il va se passer des choses. Parce que quand on sera à un taux de chômage de 50%, forcément il se passera quelque chose. Et donc on peut commencer à voir ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Espagne. Et si vous lisez le web, bien sûr, parce que si vous attendez que les actualités de la télé, vous êtes mal barré. Hein. Il va y avoir réaction et c'est normal. C'est le corps se défend. Simplement, si vous êtes conscient de la chose, c'est pas la peine d'aller faire le con dehors quand vous savez que les autres ils sont avec la hache et ou le fusil de chasse. Hein. C'est vous restez peinard à la maison, vous attendez que ça se passe. Ils voulaient rien entendre avant, forcément ils auront une conséquence. Vous avez su, donc vous planquez, vous baissez la tête, puis vous dites la tempête quand elle sera passée, on relèvera la tête, puis on verra ce qui reste. Voilà le choc de l'humanité. Céline, si j'ai bien compris, notre corps 3D deviendra silicé en 5D. Vu que tout le monde n'ascensionnera pas en même temps, cela veut-il dire qu'il y aura à partir du 21 décembre à la fois des personnes en carboné et d'autres en silicé qui y suivront, qui vivront sur cette planète? Le but, hein, quand on dit en 5D, ça va s'appeler la résurrection. Ça veut dire qu'en fait, globalement, dans la grande majorité des cas, c'est que tu auras changé de corps. En attendant, pour vivre en 4D, eh bien, il va falloir se siliciser à mort. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont encarbonés. Hein, et moi, je suis encarboné, mais avec une certaine quantité de silicé. Mais cette quantité va être variable selon tous les individus et leur, on va dire, leur vibration. Donc effectivement, je devais être silicé, je ne sais pas moi, peut-être à 3% il y a 3 ans, et puis peut-être maintenant je suis à 5%, ou à 15%, ou à 25%, on s'en fout. De toute façon, plus nous allons avancer dans le temps, et plus nous allons siliciser, comme on dit. Donc il n'y a pas t'es 100% carboné ou t'es 100% silicé, non, il va y avoir un taux qui va varier en permanence. Alors bien sûr, il y aura certaines carcasses qui vont vouloir résister, on va dire, au silissage. Ils vont résister, ils vont résister, ils vont résister, puis ils vont claquer. Donc de toute façon, cela comme ça, il n'y aura plus le problème. C'est pour ça que je dis qu'il y aura une mortalité qui va être non négligeable dans les années à venir. C'est déjà le cas, mais bon, on nous le cache. Mais il y aura une mortalité de plus en plus grande parce qu'un certain nombre d'individus n'ont plus un corps suffisamment valide pour pouvoir encaisser la transformation. Mais ça, c'est selon chacun, et nous n'avons absolument aucun jugement à faire par rapport à ça. Aucun. Symptômes d'ascension. Une question de Fabien. Pour moi, aucun symptôme de malaise physique, pas plus d'expérimentation suprasensorielle, télépathie, vision d'énergie subtile, etc. Seulement la confrontation avec des situations bien 3D de dualité et de non-sens, notamment au niveau professionnel, qui m'oblige à me centrer de plus en plus à accepter les autres tels qu'ils sont, bien que ce qu'ils dégagent soit maintenant aux antipodes de ce que je suis à l'intérieur. Ce que je ressens, c'est qu'on me pousse à vivre cela et qu'il est inutile de chercher à fuir. Pour me rassurer, je me dis que d'une manière ou d'une autre, ça n'est qu'une expérience nécessaire qui ne durera pas. Alors, qu'en penses-tu? Bah, c'est simple, c'est-à-dire que ce que tu vis à l'intérieur est une chose, et ce que tu vis à l'extérieur a un décalage, parce qu'on sait que l'aspect matériel est toujours plus lent. Donc, si tu dis, ah, oh, je ressens ça, mais maintenant je ne veux plus vivre dans la matière de 3D parce que ça me casse les bonbons, bah oui, mais il y a juste un petit problème, c'est que tes anges à côté, enfin tes autres parties de toi-même, faut quand même qu'ils synchronisent avec une autre façon matérielle pour que tu arrives quand même à croûter demain. Donc, c'est la différence entre, on va dire, la pensée et la réalisation de ta pensée. C'est-à-dire que si tu dis, ah, j'aimerais toucher, enfin, j'aimerais vivre comme ci, comme ci, comme ça, bah, ça va prendre un certain temps pour se matérialiser. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu ressens le truc, on est d'accord, mais que c'est pas du jour au lendemain que tu vas pouvoir le vivre dans la matière parce qu'il faut quand même un certain temps. Donc, quelle que soit l'aide qui nous est apporté extérieurement, eh bien, il y a quand même un délai. Alors, ce délai va être variable en fonction des affinités. Imagine que tu dis, ah, mais non, je vais lâcher mon appartement et mon boulot parce que les anges ou machin truc, demain, ils vont m'apporter là où je dois être, dans le bon appartement, et puis le frigo, il sera plein. C'est facile de penser comme ça, on est d'accord, mais comme dirait l'autre, il faudra quand même que les anges ils attendent que certains appartements se libèrent et que il faudra qu'ils trouvent quand même quelques supermarchés qui voudront bien te remplir le frigo gratuitement. Donc je veux dire, ça prend un peu de délai, on est désolé. Donc il faut avoir patience et simplement suivre, je dirais, la musique calmement. Donc si tu sais que tu dois aller au boulot encore pour l'instant, eh bien tu y vas, tu suis, simplement tu restes dans ton état d'être et tu n'essaies pas de rentrer en conflit avec les autres personnes. Tu les acceptes pour ce qu'ils sont. Alors s'ils te mettent la pression, ben dire ok, ils vont mettre une pression, ok, je suis le truc. Si vraiment il la met trop, vous savez, c'est pas difficile en France, ça s'appelle un congé maladie. Donc si vraiment il met trop de pression, il l'aura mérité, hein. Tu dis, oh, ok, et vous savez, il n'y a pas besoin d'attendre d'être à l'article de la mort hein, pour prendre un congé maladie. Hein. Donc, quelque part, je dirais même que ça c'est mon expérience de patron, dans les périodes difficiles, le patron, il a envie que ses employés partent en congé maladie parce que pendant ce temps-là, c'est la caisse maladie qui paye votre paye et c'est pour lui. Donc, faut pas croire, mais d'une certaine manière. Les acédiques le savent bien, enfin les acédiques et surtout la sécurité sociale savent bien que beaucoup de gens se trouvent en congé maladie pour arranger le patron et non pas parce qu'ils sont malades. Donc quelque part, si tu sens que la pression devient un petit peu forte, tranquillos, tu vas voir le premier toubib, puis tu dis, écoutez, je me sens pas bien, là j'ai des insomnies, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai bu, là, j'arrive au boulot, je sais plus ce qui se passe, et puis à la limite, je suis prêt à prendre un baston et puis d'écraser la tronche de l'autre. Donc t'inquiète pas, il va y avoir un surtension, surmenage, tout le truc, et puis il te mettra une semaine de repos, et puis il te mettra une belle prescription avec plein de médicaments. Tranquillement, tu vas même pas à la pharmacie, tu n'achètes aucun médicament, tu restes à la maison cool et t'attends. Comme ça, tu pourras être cool, vivre ton être-té, sans que ça coûte véritablement en termes. Sans que d'abord ça fasse gagner des sous à Big Pharma, et puis en même temps, la Sécu, de toute façon, elle sera toujours en déficit et elle va l'être de plus en plus, de toute façon. Donc, on s'en fout, puisque tout ça, c'est payé avec des crédits qu'on ne paiera jamais. Donc, cool. Et en attendant, puisque tu élèveras ta vibration pendant ces périodes de congé maladie, eh bien, ça matérialisera encore plus vite ce qu'il y aura à venir parce que tu pourras attirer à toi encore les choses beaucoup plus vite. Ah, alors, une question de Sam. Tous les symptômes maladie actuels sont-ils des manifestations de l'ascension? Je souffrais de spasmes sphyliques à l'adolescence. Est-il possible que l'ascension se manifeste déjà? On m'a diagnostiqué. Je joue pas sous les trucs. Ces maladies sont-elles des maladies d'ascension? Bon, enfin bref, en résumé, hein, pour ça, mais excuse-moi, je fais un peu. Parce que là, bon, ça commence à durer un petit peu. Je voudrais pas faire trop long. De toute façon, plus on avance dans le processus de l'ascension, et plus effectivement, il y a des choses qui vont se déclencher en nous. Alors, bien sûr, on peut avoir certaines maladies, hein, donc le mal a dit, hein, ça veut dire qu'un décrassage peut amener des inconvénients, on va dire, pendant un certain temps, et ensuite se résorber. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans un certain nombre d'articles, hein, sur les symptômes, par exemple, physiques, quand on aborde la 4D, etc. C'est-à-dire que ce sont des symptômes tout à fait temporaires, qui sont dus à des maintenances, à un décrassage, donc il n'y a pas à s'inquiéter, simplement on passe au travers. Hein. Donc il faut avoir la foi par rapport à ça et suivre. De toute façon, si tu essayes de passer par le corps médical classique, ils ne feront que freiner le phénomène et en fait ça empirera les choses. Donc voilà, alors bien sûr on me prendra pour un fou, mais c'est pas grave. Vaut mieux être un fou, entre guillemets, et élever sa vibration que d'être un type normal et d'être à l'hosto. Voilà, alors on arrive vers les dernières questions. Il y en a encore, hein, mais bon. Nouvelle Jérusalem, question de Thierry. Que pouvez-vous dire sur la Nouvelle Jérusalem? Certains disent que cela est physique, d'autres que ce n'est qu'un espace intérieur. Bon, clairement, donc on voit que Thierry est quand même assez nouveau et que c'est beaucoup de questions de nouveau. La Nouvelle Jérusalem, c'est tout simplement la 4D. Donc, pour les anciennes religions, enfin, quand je dis les anciennes religions, hein, il faut savoir que les Juifs, c'est Jérusalem et que le christianisme, de toute façon, c'est une branche du judaïsme. Hein. Donc, quelque part, tout le monde dit Jérusalem, Roussalem, c'est Jésus qui était venu là, on l'a crucifié là, donc c'est là que ça va se passer, etc. Bon, bah, la ville de la paix, elle devrait être en paix. Aujourd'hui, Jérusalem, elle est en paix parce que simplement, il y a des mecs en kaki avec des flingues. Enfin, des mecs et des nanars. Donc, c'est une paix absolument, on va dire, illusoire, parce que si c'était la paix du cœur, eh bien, Roussalem serait vraiment une cité de la paix. Pour résumer par rapport à ça, c'est vraiment, comme tu dis, un espace intérieur, c'est-à-dire que si tout le monde était vraiment dans le cœur, eh bien, il y aurait une acceptation et un respect total de toutes les différences, et à ce moment-là, il n'y aurait pas besoin de construire de mur entre Jérusalem et le reste du pays. Et je veux simplement signifier qu'avant qu'Israël soit né, il n'y avait pas ce bordel à Jérusalem. Donc, c'est parce qu'il y en a qui ont décrété que c'était leur pays et pas celui des autres, que depuis c'est le bordel et on voit où ça mène. Hein, donc, quelque part, moi personnellement, si je veux être en paix, j'ai pas besoin d'aller à Jérusalem. J'ai simplement à être dans mon cœur et c'est ça le Jérusalem de chacun. Être dans son cœur et ça suffit. Parce que être dans son cœur, c'est le don inconditionnel, mais c'est aussi le respect inconditionnel. Donc si tu es dans le respect inconditionnel, tu n'as personne en guerre contre toi. Sauf ceux qui ont bien sûr cherchent à faire la guerre. Une question de Gabriel. J'ai du mal à saisir la bonne attitude entre se centrer sur soi, être soi, et s'ouvrir aux autres, être hors de soi. Moi-même, je ressens que m'exposer trop dans le monde, telle la famille et la plupart des gens 3D, me décentre, donc tendance à un certain isolement qui me contente. Mais d'un autre côté, et vous le dites souvent aussi, il faut s'ouvrir aux autres, parce que être un lampadaire, car être un humain, c'est être dans les relations dilemmes. Quelle attitude adopter? Y a-t-il un juste milieu entre ces deux extrêmes? Être humain en relation avec les autres et être divin, être en relation avec soi. Eh bien, c'est juste un équilibre. Donc moi, bah c'est simple, hein, je vais prendre mon exemple parce que comme ça va être clair. J'aime bien être tout seul, mais au bout d'un certain temps, je m'ennuie, enfin je veux dire, j'en ai marre, j'ai besoin quand même de rencontrer une tête ou deux, parce que quand je rencontre une tête ou deux, eh bien ça me permet d'exprimer ce que je suis et ça me fait du bien. Donc, en clair, eh ben, c'est la même chose que quand tu dis j'ai faim ou j'ai pas faim. Quand tu as faim, bah, tu te mets au frais, tu te mets à table, et puis bah, quand tu n'as pas faim, tu ne vas pas piquer dans le frigo. Donc, c'est la même chose quand tu as envie de rencontrer des gens, bah, tu vas à leur rencontre. Si tu n'as pas envie, bah, tu n'y vas pas. Donc il y a des fois, bah, tu dis je vais au supermarché. Donc quand tu vas au supermarché, tu peux pas dire je suis isolé dans mon petit monde et je regarde que mon caddie, puis les autres, je m'en fous. Non, tu peux être ouvert aux gens parce que c'est une opportunité de les rencontrer, enfin, entre guillemets, avec les sourires, une petite causante, enfin une petite phrase par-ci par-là pour les faire rigoler, etc. Mais ce que je veux dire, c'est on n'est pas obligé de dire bon, Laurent, il a dit qu'il fallait qu'on aille voir les gens, alors on va aller les voir. Non, on n'est pas des témoins de Jéhovah, on n'est pas tout ça. On est ce que l'on est. Simplement, il faut savoir équilibrer. Il y a des moments, tu vas pouvoir rester une semaine tout seul chez toi, peinard, puis il y a des moments, il va falloir que tu remplisses le frigo. Puis il y a des moments, malgré tout ça, tu as envie de rencontrer des gens et de partager. Donc, il n'y a absolument aucune règle à suivre en termes d'habitude. Tu vas dire, oui, j'ai des amis, alors tous les samedis soirs, on va se faire une petite réunion. Non, il y a tout simplement à suivre son unicité et tu verras que quand tu as envie de rencontrer quelqu'un, tu peux le rencontrer. Et donc, moi, de temps en temps, quand j'ai envie de rencontrer quelqu'un et que pourtant, j'ai pas envie de mettre le cul dehors, je me mets sur Skype et puis. Je vois quelques contacts, s'ils sont branchés, je fais dispo. Et puis s'ils me disent oui, on cause, quoi. Et puis je vais causer une demi-heure, une heure. Et puis je suis content, hop, ça y est. Parce que je me suis ouvert vers l'extérieur, mais je suis resté devant chez moi au chaud, enfin entre guillemets, et sans être incommodé par des gens de 3D que j'aurais pas voulu voir, comme si j'avais été, par exemple, dans un supermarché ou dans un rassemblement, dans une place publique. Donc, il n'y a pas de règles par rapport à ça. Il y a juste à suivre son équilibre et rester centré. Si tu sens que ça te décentre, tu prends la tangente. C'est tout. Donc, alors, si tu dis que, ah ouais, tiens, j'ai appelé mes copains, ils vont venir, puis au bout d'une demi-heure, t'en as ras le cul, tu leur dis, bon, les gars, vous vous cassez, ils ne vont pas comprendre. Donc, ce n'est pas en invitant des gens que on va vraiment. Si tu invites, tu sais que là, tu vas avoir un délai à assumer. Donc, moi, j'invite personne, donc comme ça, c'est clair. Et puis, ceux qui viennent, c'est qu'ils sont très volontaires pour venir. Et puis, comme dirait l'autre, quand ils repartent, ils sont contents, mais fatigués. C'est vrai que je cause beaucoup. Alors, une autre question de Sam. Connais-tu un calcul ou une manière de connaître l'âge de notre âme? L'ascension dépend-elle de l'âge de notre âme? Voilà. Donc, je résume. Bon. Foutaise. Le temps n'existe pas. Nous sommes dans l'éternel présent. Alors vouloir mesurer l'âge, c'est simplement dire, est-ce que si j'ai 3000 ans, j'ai plus de chances d'ascensionner que si j'en avais 1000? Ça veut absolument rien dire. Donc, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur cette question. L'âme n'a pas d'âge, parce que ça dépend, et là encore, de l'âme. Parce que si on veut aller dans les vraies définitions, l'âme dont tu parles, c'est la somme de toutes les emmerdes que tu as eues sur Terre. C'est tout. Parce que quand tu n'étais pas sur Terre, tu n'avais pas cette âme-là. L'âme, c'est la somme de tous tes blocages dus au moteur de la dualité. Donc, une fois que tu partiras de la Terre, ton âme, elle n'existera plus. Non, mais ton soi supérieur sera toujours là, ainsi que ton grand soi. Parce que eux, ils sont éternels. Mais l'âme, elle, elle ne l'est pas. Mais le problème, c'est toujours des questions de définition. Les gens disent, le soi supérieur, c'est l'âme. Alors dans les débuts, on dit ça, c'est pour faire simple. Mais dans la réalité, ça ne l'est pas du tout. D'ailleurs, c'est pas difficile. Quand ton soi supérieur vient, il y en a un qui gigote, c'est ton âme. Alors on appelle ça l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est pas ton soi supérieur. Hein, parce que ton soi supérieur, il est tout sauf un gosse. Hein, parce que par définition, l'enfant intérieur, il chahute. Hein. Ton soi supérieur, lui, il n'a pas de corps émotionnel, hein. Il n'a pas de corps sentimental, et donc il ne va pas trépigner pour avoir un bonbon. Hein. C'est pas du tout dans son style. Hein. Donc, concrètement parlant, dire que le soi supérieur et l'âme, c'est la même chose, c'est faux. Disons que tout simplement, il y a une interface, entre guillemets, entre le soi supérieur et ton mental ego, et on appelle ça l'âme. Parce que l'âme appartient au corps émotionnel. Bon, y en a-t-il encore là? Parce que voilà. Donc, les animaux. J'ai deux chats et je les trouve particulièrement insupportables en ce moment. Tout le temps faim, très très actifs, ils sautent partout, courent, piquent dans tous les placards. Est-ce leur manière de vivre l'ascension? Apparemment, oui, parce que l'achat de cuit à la maison fait là exactement la même chose. J'ai remarqué que mes chats apprécient de manger des légumes, petits pois, carottes, alors moi j'ai pas essayé, et même bananes pour le petit mâle, même s'il adore manger leur nourriture habituelle. Leur régime alimentaire était en train de se modifier pour devenir végétarien. Alors, ça, je peux pas te répondre, hein, j'ai pas fait l'essai, mais il se passe ce qui se passe, et puis je pense qu'un carnassier, devenir végétarien. Mais bon, on ne sait jamais. Mais je t'avouerai que c'est vraiment hors de mon champ de vision des choses. Je m'en fous. Les chats, c'est les chats. Ils ont leur vie, ils ont leur truc. Ils se baladent dans les dimensions alors que nous, bon, on peine comme des bœufs. Alors, chacun ses trucs. Ils vivent l'ascension comme ils le vivent. Déjà, savoir déjà ce qui se passe pour l'ascension des humanoïdes, c'est déjà pas simple. Alors, si on devait commencer à se préoccuper des autres, on n'est pas fini. On n'est pas. Allez, je vais passer à une dernière question. J'ai l'impression, une question d'Emmanuel, j'ai l'impression que depuis un moment, je ne suis plus en joie. En fait, je suis de plus en plus dans un grand calme intérieur, une acceptation de ce qui est. Car j'ai enfin compris que tout est parfait. Mais cette joie dont tu parles serait, elle, simplement ressentie par le calme et le bien-être intérieur, point d'interrogation. Est-ce que ça pourrait être juste cela? Je ressens juste cela au fil des heures qui passent. Effectivement, la joie est une conséquence d'une paix intérieure. Et donc, faut pas croire que pendant toute la journée, je suis en joie, je rigole, et que je fais de l'humour, et que je déconne. Non, c'est absolument pas ça. Ça, c'est la notion 3D. C'est-à-dire une notion, on va dire, exubérante. Une vision, on va dire, émotionnelle des choses. Être en joie, c'est simplement, au niveau 4D, je dirais, juste un état d'être où tu te sens bien. Et si tu es en, je dirais, en communication avec quelqu'un, tu ne vas pas te prendre au sérieux. Et d'une certaine manière, tu dis. Si quelqu'un dit quelque chose, tu dis si je le fais sourire, ça sera toujours mieux que s'il fait la gueule. Donc, être en joie, c'est ça. C'est une espèce de malice. Donc, c'est pas émotionnel. C'est, je dirais, c'est l'esprit qui titille quelque part et qui dit attends là, je vais taquiner les froufrous là juste pour que tu rigoles, tu te sois bien et tu te sens légère. C'est tout quoi. Alors bien sûr, moi quand j'écris, on me dit ah, Laurent, t'as de l'humour, mais moi personnellement, je m'en rends pas compte. J'écris mon truc. Alors bon, mais pourtant, je suis sérieux. Hein. Je veux dire, j'écris et puis j'essaye de faire passer un message, enfin ce que je pense. Donc j'écris, mais donc je pourrais presque dire que je suis sur un plan mental. Et pourtant, quand vous lisez, vous bidonnez, ça veut dire quoi? Que en fait, la véritable joie, c'est une façon de regarder, c'est une façon d'être et d'exprimer ce que l'on est. Et ça déclenche autour de nous de la rigolade. Et ça fait du bien. Mais est-ce que ça veut dire que moi, je suis en permanence en train de rigoler et de. Pas du tout. Je dirais même, des fois, juste le fait d'essayer d'être sérieux, je rigole, quoi. Donc, c'est ça la joie, la vraie. C'est en fait, c'est une moquerie, mais tellement gentille. Il n'y a aucun jugement dedans. C'est tu t'amuses. Voilà. Donc être, c'est un amusement parce que en fait, c'est l'un qui se découvre lui-même. Et donc, comme dirait l'autre, vaut mieux le faire dans la joie et la bonne humeur qu'en ayant les fesses serrées, les lèvres pincées et d'être saoul comme un pot. Voilà. Donc je vais m'arrêter là-dessus parce que bah, il est minuit en plus. Hein, et je vais vous souhaiter une bonne continuation par rapport à tout ça. Je vous dis à la prochaine, tout en sachant que effectivement maintenant il y a le nouveau forum qui est en place, vous pourrez communiquer entre vous sans aucun problème. Hasta luego et puis bonne continuation. Merci, au revoir.